marche, je vous remercie. Vous avez presque tout dit. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation et cette affiche. En effet, comme vous l'avez indiqué à l'instant, je me suis dit, quand il m'a été proposé de venir vous parler de ce soir, dans le cadre d'un ensemble de conférences ou de soirées ou de réflexions, je ne sais pas, sur la crise, que peut-être je pouvais essayer de faire quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça, qui consisterait à donner une version positive de la notion de crise. C'est-à-dire, après tout, il faut peut-être se dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui nous intéresse, qui est en train de s'affirmer. Et donc, je suis parti, j'ai arrêté de dire que je pense que quand on parle de là où je parle, par exemple, ce soir, enfin, ce genre de situation, il faut être optimiste. Il y a un devoir d'optimisme. J'ai prévu à votre intention un raisonnement en 7 points. Voilà. Que je vais donc préciser petit à petit. Je terminerai ce raisonnement sur l'interprétation de la notion de crise. Et je commencerai ce raisonnement à l'instant en partant du DISAM et de sa définition historique. Donc voici le premier point, justement, concernant. Je dis les choses comme ça maintenant. Le design s'est décidé historiquement. C'est-à-dire qu'il y a une phase dans l'histoire du design pendant laquelle il n'est pas encore décidé à être ce qu'il va être, au moins pendant un certain temps, son temps le plus historique, en tout cas pour le moment. Et puis il y a un moment décisif. Le design s'est décidé, je pense qu'on peut lier, il faudrait naturellement donner des arguments pour justifier ce que je veux dire, mais je pense qu'on peut dire que le design s'est décidé au moment que j'appellerais Sullivan Wright, si vous voulez, qui n'est pas seulement un moment américain, qui est aussi en fait un moment européen, puisqu'ils ont été impliqués de fait dans l'histoire, sinon du Baos, en tout cas d'enseignants qui y sont passés. Et comme vous savez certainement, c'est à Sullivan qu'on doit la fameuse formule traduite par la forme sur la fonction, formule, je pense, pour ce qui me concerne, de plus en plus, qui doit être considérée comme une traduction approximative, puisque je crois que les articles définis ne sont pas dans le texte original. Et que justement, le fait qu'il n'y a pas la forme, la fonction, les formes et fonctions sans autre détermination doit nous intéresser et en tout cas nous permettre de considérer qu'il y avait beaucoup plus de subtilité dans ces textes-là, dans ces textes décisifs, qu'on le laisse souvent penser un peu rapidement aujourd'hui. Donc je dis ceci, le design s'est décidé historiquement et devenu, le design est devenu ce à quoi nous attachons ce nom, nous autres, aujourd'hui. Il s'est décidé historiquement en ouvrant une situation de crise formelle dans le monde industriel. C'est-à-dire en faisant, comme on dit couramment, de la question de la forme, de la notion de forme, et de la pratique des formes, une affaire critique au sein même du monde industriel. C'est-à-dire, il s'est décidé en proposant au monde industriel, sans conteste, industriel sans conteste, je vais y revenir certainement très rapidement en passant dans quelques secondes, en proposant à ce monde d'avoir forme, d'avoir des formes, et pas d'exister, alors on cherchera comment on peut dire, sans forme, ou seulement comme il était. Ils ont ouvert une situation de crise formelle, je pense que c'est assez clair. Ils ont signalé, ou ceux qui ont permis que le design se décide, ils ont de signaler que le monde industriel n'était pas un monde critique du point de vue des formes, ou pas un monde regardant du point de vue des formes, que c'était, on le voit dans le texte de Sullivan, que c'était un monde qui procédait par mimétisme et par habitude stylistique, qui, par exemple, comme l'indique Sullivan, quand il s'agissait de construire des banques, les façonnait en temple, donc construisait des banques comme des temples, ce qui était aberrant, puisque les banques ne sont pas des temples. Donc ce monde, dans ce qu'il construisait, n'était pas regardant aux formes, mais certainement regardant au fonctionnement, aux enrichissements, à toutes sortes de choses de ce type-là. Et au lieu de formes, il empruntait des façades, des apparences, il faisait des apparences. Globalement, finalement, ce monde industriel, d'avant le design, enfin, d'avant que le design se décide, dissociait, je dirais ça pour ce qui me concerne, la technicité foncière et les apparences livrées, les apparences des productions, des produits livrés au regard, à l'écoute, à la perception de la plupart d'entre nous. Et ceux qui ont décidé le design à être ce qu'il aura été, ont œuvré, ont fait œuvre pour démarquer ce monde, le monde industriel, en son sein même, pour le démarquer, pour produire des démarcations entre, disons, l'informe, le stylé et le formé. Certaines productions étaient abandonnées sans attention particulière pour la forme. Certaines autres étaient stylées, c'est-à-dire couvertes de façades formelles, d'apparence, comme je viens de dire à l'instant, qui faisaient par exemple, je reprends l'exemple que j'ai indiqué, qu'une banque pouvait prendre le style d'un temple. Et puis donc, justement, ce qu'ont fait ceux qui ont permis au design de se décider historiquement, ils ont produit une démarcation spécifique qui serait celle de la forme, des formes qui peuvent se lier au cœur productif du monde industriel. Je dirais dans un langage philosophique, parce que je ne peux pas complètement nier le fait que je sois philosophe, c'est l'enjeu peut-être vers lequel j'aimerais petit à petit, si vous voulez bien me suivre, amener nos réflexions de ce soir. Je crois que foncièrement, il s'agissait, j'ai mis ça sur ménage, la formule méritait un peu d'explication, de pouvoir y être au monde industriel, de pouvoir y être. Comme on dit en français, ah, j'y suis. Ça veut dire, ah oui, j'y suis, ça y est, je comprends. Oui, j'y suis vraiment. Vous voyez cette façon de dire y être, donc être là, comme peut dire aussi cette expression, être là dans le monde, en y étant, je dirais, véritablement. Hein, ce qui sous-entend que, au fond, dans le monde industriel, il y a deux façons d'être présent. On y est de toute façon, puisqu'on y vit. On y est de toute façon, mais on peut y être sans y être véritablement. Et que l'idée peut-être de base, c'est que si le monde industriel manque de design, nous ne pouvons pas y être au sens élevé, si vous voulez, positif. Nous ne pouvons pas le réaliser, y être avec conscience. Ça serait le premier point de mon raisonnement. Le deuxième point, c'est que, bien sûr, si quelque chose comme le design a pu exister et se décider dans l'esprit que je viens d'essayer de rappeler, si le design a pu être décisif, décidé et décisif, les deux, ce qui a été la condition de ce design, c'est bien entendu, je viens de le dire, je viens de laisser entendre, pour le moins, l'existence préalable de ce que j'appelle, vous l'avez rappelé très gentiment dans votre présentation, des poussées techniques. J'utilise cette expression de poussée technique pour ne pas dire progrès. Parce que je ne suis pas sûr a priori que tout ce qui vient à être, qui n'existait pas, que nous nous mettons à savoir produire, à savoir faire, je ne suis pas sûr a priori, d'ailleurs personne ne l'est à mon avis, que ces nouvelles productions, ces nouvelles mises en œuvre soient nécessairement des progrès, c'est-à-dire des avancées vers un mieux, pour dire les choses, vers un mieux-être, si vous voulez. Alors à penser à des poussées, voilà. Des poussées dans les deux sens possibles de ce mot en français, c'est-à-dire des choses qui poussent, comme on peut dire un peu rapidement, pousse-toi de là que je m'y mette, hein, c'est-à-dire des logiques de remplacement. C'est ça l'histoire de la technique, c'est ça l'histoire de ce que par ailleurs en effet parfois on appelle progrès, ou on pourrait simplement appeler l'inventivité humaine. Voilà, c'est ainsi, nous sommes de ces êtres qui poussons régulièrement dans le monde des objets qui n'y étaient pas, qui faisons venir au monde des situations, des objets qui n'y étaient pas, et qui ont comme propriété de remplacer ce qu'il y avait. Donc, vous avez utilisé aussi ce mot dans votre présentation. Nous sommes ces êtres qui modifions sans cesse le monde. Autre façon de dire que nous sommes des animaux techniciens. Il y a des poussées techniques. Il y a des poussées techniques et c'est au cœur de l'une d'elles que le design s'est décidé historiquement. Dans le cas particulier de la seconde moitié du 19e siècle, où je me trouve encore, ce moment décisif de pour le design, les poussées en question, les poussées qu'on appelle donc industrielles, ont modifié la pertinence d'un certain nombre de métiers. Elles ont mis en cause l'attachement à des métiers qu'on pourrait appeler traditionnels, ou l'attachement à des métiers qui, du fait des poussées techniques, sont devenus des métiers traditionnels qui ne l'étaient pas, qui étaient des métiers actuels, ayant une opérativité. Et c'est à chaque fois, le processus se reproduit. Je suis en train de le situer historiquement parce que j'ai l'intention de vous lire dans quelques minutes un texte, donc, par définition, daté, enfin, qui a été écrit à un certain moment, en pensant à cette situation-là. Mais naturellement, par extension, tout à l'heure, nous pourrons dire que ce que je suis en train de vous dire à l'instant, c'est une forme générale de raisonnement. Il y a une situation humaine qui correspond, je ne sais pas comment dire ça, radicalement à l'être humain au monde et qui consiste en ceci que cet être ne peut pas ne pas produire de la nouveauté dans le monde. Nous sommes des animaux techniciens, nous sommes inventifs, nous réalisons des objets et des situations qui n'étaient pas là auparavant. Et ces poussées conduisent évidemment, j'allais dire naturellement, à périmer des situations antérieures et notamment des métiers qui deviennent par conséquent des capacités ou des savoir-faire qui passent l'actualité. Au caractère de l'actualité, au caractère du traditionnel. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est une façon que j'essaye de produire dans une description, je ne sais pas comment dire ça, la moins négative possible, mais je suis en train, dans ce point de mon raisonnement, de donner une description de ce qu'on peut appeler, dans un langage plus ordinaire, un facteur de crise. Voilà. L'un des facteurs de ce qu'on appelle couramment la crise, ou une situation de crise, c'est que des métiers qui étaient opératoires cessent de l'être parce que un certain nombre de poussées techniques créent les conditions de leur remplacement ou de leur modification ou de leur déplacement. Et que ces situations de modification, de remplacement ou de déplacement sont évidemment pas faciles à vivre pour ceux ou celles qui sont titulaires de ces métiers en train de devenir traditionnels. Si je sors de la simple mention historique à la laquelle je me tiens à peu près pour le moment, je dirais que si, pour nous aujourd'hui, que si le design tient toujours à son histoire, c'est-à-dire s'il se produit dans la logique de sa propre décision historique, c'est-à-dire s'il n'est pas passé lui-même à une autre nature, je pense que c'est un enjeu pour la période actuelle que de savoir si le design tient encore à ce pourquoi il s'est décidé au moment historique et ce pourquoi également il a été décisif. Je fais l'hypothèse pour ce qui me concerne que oui, c'est-à-dire que en tout cas il faut examiner avec attention cette hypothèse, cette partie d'hypothèse selon laquelle le design tient toujours à son histoire, qu'il est toujours concerné par ce moment historique où il a été décisif et où il s'est décidé. Donc, si le design tient toujours à son histoire, pour le dire comme ça, alors il faut noter pour nous aujourd'hui que sa condition de possibilité est liée, oui, à une modification de la technicité générale, à une phase de crise technique, de remplacement des métiers. J'essaie de dire un peu rapidement que si le design tient toujours à son histoire, c'est-à-dire que si cette histoire compte encore pour nous, alors il faut penser que le design a, je sais pas, par essence, si vous voulez, en tout cas en tenant compte de son caractère décisif, il a rapport avec les moments de crise technique. Il est, si vous voulez, si j'essaie de dire en généralisant, il est d'autant plus décisif, ou il doit d'autant plus se décider que la phase historique dans laquelle la question, comme on dit, du design se pose est une phase de crise technique, ou si vous voulez, une phase de crise technique, une phase critique pour les métiers existants, ou si vous voulez, une phase de poussée technique. Et il faut noter également que, d'une certaine manière, je dirais, c'est une espèce d'exigence, tant que le design ne s'est pas décidé, ou tant que le design n'est pas décisif, ou à chaque fois qu'il ne l'est pas, ça revient même, là où il manque, en tant qu'opérateur décisif, nous sommes, et on l'attend d'une certaine manière, au manque de lui, là où nous sommes et où le design n'est pas, si ce raisonnement très très général et très abstrait est juste, là où nous sommes, où le design n'est pas, nous sommes cependant dans une situation de poussée technique, dans une situation de crise des métiers, mais nous y sommes, mais en manquant cette dimension que j'essayais de dire tout à l'heure, qui s'énonce pourtant dans la même expression, nous y sommes sans y être. Voilà. C'est le deuxième point de mon raisonnement un petit peu difficile, certainement un petit peu abstrait, que j'essaie de résumer par cette formule paradoxale. Nous pouvons être au monde tel qu'il pousse, tel qu'il est en train d'être critique pour les métiers en train de devenir traditionnels. Voilà. Nous pouvons être à tout ça, nous y sommes. Voilà. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui est opéré soit avec design, alors nous y sommes sans y être, au sens de tout à l'heure, sans y être de façon formelle, de façon formalisée, de façon, j'ai un autre adjectif en tête qui est un peu délicat à mettre en place, sans y être de façon authentique. Vous voyez, quand on est quelque part sans y être vraiment, voilà. Il y a un mot qui ressort d'ailleurs dans l'histoire des théories du XXe siècle, qui ne sont pas des théories très très éloignées de l'histoire du design. Je pense à des textes de Walter Benjamin, ce qu'il appelait la distraction. L'être distrait, c'est celui qui est dans une situation sans y être vraiment, voilà, qui a l'esprit ailleurs. Mais c'est peut-être ça, l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes dans une phase de poussée technique. Nous y sommes, mais sans y être tout à fait, c'est-à-dire nous y sommes distraitement en ayant l'esprit ailleurs. Et peut-être si le design, en tout cas en tant qu'il tient à sa définition décisive historique, nous intéresse, ou peut nous intéresser, ça serait en tant qu'il nous permettrait de toujours y être à ce monde gros de poussées techniques, de modifications de l'état des métiers en situation critique, mais il nous permettrait d'y être vraiment, c'est-à-dire de façon non distraite. C'est le deuxième point de mon raisonnement. Alors voici le troisième, petit à petit, j'espère que vous verrez que c'est les étapes de raisonnement se combinent, se montent avec une certaine logique, les unes après les autres. Je voudrais vous lire ce texte de Frank Lloyd Wright que, en effet, j'avais un petit peu déjà indiqué dans le petit texte que le résumé anticipateur de mon propos de ce soir et que vous avez très certainement retrouvé pour à la fois faire ce travail qui est sous nos yeux et puis l'introduction que vous avez bien voulu faire tout à l'heure. Alors, Foucault est justement en train d'évoquer dans ce texte les situations de modification dans l'organisation du travail, disons, la définition des métiers qui se lie à ce qu'on peut appeler la poussée industrielle de la seconde moitié du 19e siècle. Et voici ce qu'il écrit. Notre industrie doit former des concepteurs. Alors, dans le texte original, là où le traducteur français met concepteur, c'est designer. Notre industrie doit former des designers au lieu de fabriquer des artisans. Car nos artisans, ce sont les machines, des artisans tout prêts, efficaces et dociles. Sur ce point, le pouvoir mécanique a fait table rase. Comment obtenir de ces impressionnantes machines artisans ce qu'elles peuvent faire de mieux, puis, au-delà du savoir-faire mécanique, comment trouver les rythmes de la forme? Donc, je pense que ce texte prend clairement acte, sous le nom de design ou de designer, une prise de distance irréversible, d'une certaine manière, avec des attitudes de travail, si vous voulez, qui seraient celles des artisans. Les machines ont remplacé, dit-il clairement, les savoir-faire dont les artisans traditionnels sont les dépositaires. Elles ont fait table rase de cette situation antérieure. Donc, dans une certaine mesure, le moment critique de ce point de vue-là est déjà passé. Et il s'agit de faire avec elles, donc avec ce qui a poussé, ce qu'il y avait. Il s'agit de faire ce qui peut être fait de mieux. Et pour illustrer, si j'ose dire, ce qui peut être fait de mieux, Frank Lloyd Wright évoque cette expression, il s'agit de trouver les rythmes, je dis bien les rythmes de la forme. Voilà. Alors, je vais peut-être commencer par la fin de son expression, un petit commentaire sur la notion de rythme. Je pense d'abord que c'est penser au pluriel et peut-être les deux mots rythme et forme en réalité sont pensés comme une seule, c'est deux noms pour une seule et même idée, si vous voulez, chez Frank Lloyd Wright. Hein. C'est-à-dire que la forme implique le rythme. Le rythme, c'est une certaine façon de produire de l'écart et des différences d'accent. C'est une notion spatiale, en fait, à l'origine de la notion de rythme, avant d'être une notion temporelle, si on remonte très très archaïquement hein, sur la signification du mot. Moi, je prends toujours cet exemple pour essayer d'être rapide dans l'explication du mot et dire que rythme, c'est pas une cadence. Un rythme, c'est pas une cadence. La cadence, c'est la répétition à espace régulier de la même chose. Alors que le rythme suppose un écart dans lequel des éléments ne sont pas à égalité de niveau perceptif. Donc il y a quelque chose qui est l'ordre d'une accentuation. Hein, par exemple, en musique, un temps fort, un temps faible, des choses aussi simples que ça. Et donc il s'agit de trouver pour ce qui a déjà poussé dans le monde, et ça sera le mieux. Et en tout cas, ça sera mieux, peut-être c'est même mieux de dire les choses comme ça, c'est pas forcément le mieux, mais ça sera mieux si c'est rythmé. On ne peut pas, je crois, comprendre cette phrase si on n'admet pas que pour le moment, dans un premier temps de la poussée, dans le premier temps de leur présence dans le monde, les poussées techniques ne sont pas au mieux de leur forme, si j'ose cette expression, elles ne sont pas au mieux, elles ne font pas au mieux qu'il est possible, et en particulier, elles manquent justement de rythme formel. La première façon, peut-être, pour les objets, les situations résultant de poussées techniques, c'est de se produire parmi nous sans rythme formel, et la tâche seconde, mais pas secondaire, puisque justement ça va être mieux, donc c'est pas secondaire, mais c'est quand même seconde, la tâche seconde pour laquelle se décide le design, dans le texte de Franck Lemoyne, de Longuenard, c'est très clair, la tâche seconde pour laquelle se décide le design consiste à finalement donner une certaine qualité spatio-temporelle, le rythme, à ce qui se trouve donc désormais. Ce qui se trouve désormais dans la possibilité d'être produit. On sait faire, on a des techniques pour cela. Et donc, deuxième élément du commentaire très rapide sur le texte de Frank Lloyd Wright que je viens de vous lire. Ce texte, à mon avis, enfin, je le dis comme ça, permet de penser que dans un premier temps, et je crois que ça correspond d'une certaine manière aux réalités historiques, les moments de poussée technique, les moments où nous sommes particulièrement inventifs, hein, nous mettons au monde non seulement de nouveaux objets et de nouvelles situations, mais de nouvelles capacités de produire des objets et des situations, dans le premier temps de leur mise au monde, les moments inventifs de l'humanité sont pas au mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ça sous-entend que pour une technicité donnée, à un moment donné, dans des capacités de production données, il y a toujours au moins deux possibilités. Que les techniques ne sont pas des savoir-faire simples, mais qu'il faut toujours les penser dans la complexité. Il faut les penser dans la complexité, et ça se traduit d'une certaine manière dans cette petite phrase que j'ai lue, c'est-à-dire... Elles peuvent se produire parmi nous, elles peuvent produire des effets parmi nous qui ne sont pas de l'ordre du mieux, qui ne sont pas de l'ordre du rythme, et elles peuvent aussi, naturellement, si elles sont traitées, par exemple, avec design, si elles sont assumées franchement, sans, en l'occurrence, par exemple, de nostalgie pour l'artisanat, c'est-à-dire si on y est vraiment, si on décide d'y aller vraiment, d'y être vraiment, et de les travailler dans le sens du mieux, dans le sens du rythme, oui, c'est possible également. Donc il me semble, et c'est le troisième point de mon raisonnement, que le texte de Frank Lloyd Wright, qui sert de référence à mon exposé de ce soir, parce que c'est là que j'ai ancré mon titre, Faire mieux, trouver le rythme, il me semble que ce texte nous ouvre l'esprit à une idée selon laquelle les machines, par exemple, dont on parle Frank Lloyd Wright, ont des possibilités, sont des capacités de production au pluriel, avec ou sans rythme, avec ou sans forme, et que on pourra appeler peut-être design une conduite des opérations techniques. Une façon de conduire, de se conduire avec les opérations techniques, étant entendu que c'est possible, que la technique n'est pas décidée d'avance dans son sens. Elle n'est pas décidée d'avance dans son sens. Elle ouvre des possibilités d'un monde sans forme ou sans rythme, ou bien d'un monde avec forme ou avec rythme. Mais pour que le monde se produise dans le registre de la forme et du rythme, il faut une conduite particulière des techniques pour laquelle le mot design semble-t-il convient. Donc peut-être le design est une façon d'orienter la technique, de se conduire avec elle, ce qui n'est pensable que si on admet a priori d'une certaine manière que la technique ouvre des possibilités sans imposer absolument un sens. sans imposer de façon absolue un sens. Si on la laisse faire, si on laisse les choses se faire, si on ne décide pas avec elle dans un esprit auquel le mot design pourrait convenir, il est possible que ces techniques ne nous fassent pas le meilleur monde. Il est possible que ces techniques nous fassent vivre dans des situations sans forme ni rythme. C'est même probablement la tendance. Mais il est possible que, à cette tendance, la technique elle-même ne supporte pas. C'est l'idée, je pense, radicale, enfin historique, à laquelle le mot design tel que nous l'entendons, à peu près aujourd'hui encore, a été attaché. Je peux dire les choses autrement, et ça sera mon quatrième point de raisonnement. Je pourrais dire que le design est une façon de faire critique au sein des poussées techniques si on se souvient du sens étymologique du mot critique, qui renvoie à un vieux verbe grec krinein, qui veut dire trier, tamiser, discriminer, séparer. Hein. Peut-être je pourrais dire par extension faire la différence. Un travail critique ou un travail écritique en tant que, une fois qu'il a lieu, on fait la différence, on discrimine, on distingue. Hein. On voit que ici et là, ça n'est pas la même chose. Ça ne, là, c'est rythmé, là, ça ne l'est pas. Là, c'est formé, là, ça ne l'est pas, etc. Par exemple, on peut dire que le design est pensé dans ces textes décisifs que je viens de vous lire. Par exemple, comme ce qui opère ce qui permet d'opérer de la discrimination au sein des poussées techniques. Il va les faire différer d'elles-mêmes, de leur tendance apparemment spontanée à être, comme j'ai dit tout à l'heure, sans forme, ou donner des formes d'emprunt, des apparences. Et l'enjeu de cette dimension critique du design, cette façon de séparer la poussée technique de sa tendance première, hein, la façon de la mener vers un mieux, c'est quelque chose à quoi peut-être, alors ça je l'ajoute, si vous voulez, je pense que ce n'est pas du tout contradictoire avec le texte, mais pour vous le montrer, il faudrait que je lise plus avant le texte de Frank Lloyd Wright, en tout cas ça n'est pas directement dans l'extrait que je viens de vous lire, je pense qu'on peut soutenir l'idée que l'enjeu de cette opération critique serait le design, c'est de vivifier la poussée technique au sein de laquelle il devient possible. Lui donner un caractère tonique, un caractère vivifiant. Il s'agit de faire entrer, et c'est peut-être une tâche à quoi le new design s'est associé depuis la société industrielle, mais qui serait de toute façon une tâche pour nous autres. Depuis la société industrielle, avec le design, il s'est agi de faire entrer une poussée technique, un moment de poussée technique dans ce que je pourrais appeler la vivacité. Que cette poussée se produise avec un caractère qu'elle n'a pas de façon nécessaire, qu'elle peut avoir, mais qu'elle n'a pas de façon nécessaire, et à quoi je vous propose de donner le nom de vivacité. Qu'un moment d'inventivité technique se réalise parmi nous avec vivacité. C'est une autre façon de dire ce que je vous disais tout à l'heure, j'y suis, hein, ce y être joyeusement, et pas y être distraitement, et pas y être en s'abstenant d'y être vraiment. Voilà. Comme nous sommes finalement quand nous nous disons dans le vocabulaire courant dans un état critique. Hein. Moi j'essaye de donner une autre qualité, une autre tonalité, à la notion de critique. Peut-être qu'un moment critique, un moment historique critique, c'est un moment dans lequel de la vivacité est possible. Pas réalisée encore, mais possible. Et que c'est une tâche que de pousser la poussée technique dans le sens de sa vivacité possible. Pas vivacité automatique, pas vivacité gagnée d'avance, certainement pas. Il y a du travail, mais possible. Il s'agit donc voilà, de faire entrer une poussée technique dans le registre de la vivacité. Et il faut opérer pour ça une une discrimination dans les possibilités même de la poussée technique en question. Je vais dire les choses autrement, de façon métaphorique, quoique je sois déjà en réalité dans un régime de métaphore, et d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse penser autrement quand tôt ou tard, en passant par des métaphores, ça nourrit radicalement toute pensée, à mon avis. Je veux dire les choses autrement, avec un régime métaphorique évident. L'enjeu, c'est peut-être à quoi le design s'est associé, à mon avis, historiquement. L'enjeu, c'est de ne pas laisser rampante une situation de poussée technique, de ne pas laisser les moments d'inventivité produire des effets sur un mode rampant. Voilà. Il faut que ça prenne forme, il faut que ça s'aperçoive, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que je vois que ce registre métaphorique, pour essayer de faire entendre ce que j'essaie de dire, hein, que c'est ça qui arrive en fait la plupart du temps, et c'est pour ça que finalement on n'y est pas. On y est sans y être. C'est que ce qu'on appelle couramment le progrès technique, je vous ai dit que je refusais conceptuellement cette expression, mais disons, c'est que les poussées techniques se produisent parmi nous d'abord sur un mode rampant. On ne les voit pas venir, on ne les sent pas arriver pour la bonne et simple raison que précisément elles n'ont pas de forme, que précisément elles ne se manifestent pas d'abord dans toute leur évidence possible. Et qu'il y a un travail justement pour faire sortir, rendre évident, c'est-à-dire l'évidence, là, le mot, il y a le videre latin, le voir, et le ex, là, qui commence le mot, là, faire sortir à la vue, mener à la vue ce qui se propage de façon rampante. Alors vous avez tout à l'heure, en présentant ma conférence, évoqué, j'ai cru entendre ça, je ne pourrais pas m'être trompé, un passage de mon livre Moderne sans modernité. Je vais saisir l'occasion peut-être d'essayer de préciser une distinction conceptuelle un peu difficile que j'avais essayé de produire dans ce livre entre ce que j'appelle la modernisation et la modernité. Seulement la modernisation est quelque chose qui n'est pas seulement de la modernisation, et à quoi le mot modernité, auquel je tiens beaucoup pour ce qui me concerne, à mon avis, convient. La modernisation, les mots, je ne sais pas, vous avez des mots avec cette racine, les modes, ça c'est la même racine que modification. Modernisation, les sociétés humaines ne cessent de connaître cette expérience-là. L'expérience de la modernisation, si on entend par là, l'expérience de la modification de leurs conditions de vie. Nous ne cessons, nous sommes des animaux techniciens, je vous l'ai dit en commençant tout à l'heure, nous ne cessons de modifier non seulement le monde dans lequel nous vivons, nous y touchons à ce monde, nous y faisons des choses, nous y touchons, mais nous modifions nos propres conditions de vie ce faisant. Hein, nous sommes des êtres par conséquent instables, et on peut traduire ça en disant nous sommes inévitablement dans la modernisation. Nous ne pouvons pas ne pas connaître des moments de poussée technique qui vont changer le monde. Je pense qu'il faut se faire à cette idée. Nous ne sommes pas des animaux stabilisés dans notre être et dans notre rapport au monde. Donc la modernisation est un élément de l'être humain au monde. Je pense que c'est inévitable. Le problème, justement, c'est que ces modernisations peuvent se produire sans que nous y prenions garde, sans que nous nous en apercevions, sans que ça éveille particulièrement notre conscience, c'est-à-dire elles peuvent j'ai utilisé cette métaphore, elles peuvent se produire sur un mode rampant. Je pourrais dire, c'est en fait toujours un registre métaphorique, un peu moins manifeste, mais toujours métaphorique, elles peuvent se produire parmi nous en douce, comme il existe des coups en douce, mais c'est quand même des coups. Et je pense qu'il faudrait le montrer, ça serait un très très bon travail. J'ai parfois essayé de commencer à l'entreprendre dans des séminaires plus longs, bien sûr, qu'une seule séance, essayer de voir en prenant des cas les uns après les autres comment ça s'introduit parmi nous des poussées techniques. je suis presque prêt à penser qu'il y a une loi de la réception des inventions qui est qu'elles ne peuvent pas se produire en toute franchise. Elles ne sont jamais tout de suite comprises dans leurs enjeux par ceux-là même qui les ont inventées. Si vous mettez un exemple, mais c'est avec un exemple, on ne démontre rien, hein, c'est juste pour faire comprendre. Mais les inventeurs de la photographie ne s'attendaient pas à produire ce qu'ils ont produit. Ils n'avaient d'ailleurs même pas le nom de l'invention, par exemple. Mais il en est de très nombreux. Peut-être qu'il y a un enjeu. Hein, c'est que l'expérience de la modernisation est une expérience fréquente, en tout cas régulière. Peut-être qu'il y a des moments, si vous voulez, pour le intérêt sur des historiens, des moments particuliers où il y a des poussées convergentes, nombreuses, plus nombreuses ou plus convergentes à certains moments qu'à d'autres. Il y a peut-être des moments dans lesquels on se remet d'aplomb après des phases de modernisation intensive. C'est possible, c'est probable, etc. Mais je crois qu'il y a de toute façon un enjeu que j'essaye de formuler avec cette distinction terminologique un tout petit peu fragile, j'en conviens, mais je pense importante. C'est un enjeu pour nous de passer de moments de modernisation à des moments de modernité. La modernité étant le nom général d'un certain nombre d'opérations qui permettent de marquer la différence, de faire apparaître ce qui a changé et de le faire apparaître sur le mode, évidemment, le plus intéressant pour nous, de la vivacité, sur un mode vif. Comment ça met certainement une autre vie, une autre condition pour nos vies, mais en même temps que dans ces conditions nouvelles pour nos vies, de la vivacité est possible. Je pense qu'on a la capacité d'attacher à cette tâche le mot de modernité. Que la modernité, ça a été ça. Ça a été le fait de marquer esthétiquement la différence entre l'autrefois et aujourd'hui. Marquer esthétiquement la différence entre l'autrefois et aujourd'hui. Je vous laisse interpréter, on en discutera peut-être, je ne sais pas si vous avez envie tout à l'heure, ce qu'il faut faire pour qu'une différence soit marquée esthétiquement, c'est-à-dire qu'elle devienne imperceptible, pas simplement perceptible comme ça, comme une espèce de fond vague, imperceptible, hein, la différence entre je perçois quelque chose et j'aperçois quelque chose, hein, que ça s'aperçoive. Marquer la différence, il y a un rapport certainement entre cette expression que je vous livre à l'instant et celle de tout à l'heure concernant les rythmes. Naturellement, parce qu'il s'agit de marquer une différence, d'accentuer, si vous voulez, une différence. Est-ce qu'on peut marquer une différence également sans que... C'était ça l'enjeu de la modernité au sens des artistes, au sens esthétique. Est-ce qu'on peut marquer, en l'occurrence, cette différence sans qu'en même temps, l'autre fois soit... toujours présent dans le champ de perception, c'est-à-dire l'articulation entre le nouveau et l'ancien sur un mode de discrimination. Comment ceux contre qui luttait Sullivan fabriquaient, construisaient des bandes qui avaient des allures de temple, ils ne marquaient pas esthétiquement la différence, hein, ils couvraient, ils masquaient, ils cachaient la modernisation, l'intérieur, les banques, sous une différence, en fait, c'est hypocrite. Hypocrite, hypo, en grec, ça veut dire en dessous, écrite, c'est le même mot que vous avez dans crise, critique, etc. C'est-à-dire des constructions hypocrites. Ils faisaient des constructions pas critiques, où la différence ne se marquait pas, hypocrite. Au cœur de l'architecture dénoncée par Sullivan, des pratiques modernes, de la modernisation, mais au dehors, dans la perception, quelque chose qui est toujours de l'ordre du style ancien. Il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'imperception critique. Donc je dirais ça pour terminer, si vous voulez, le quatrième point de mon raisonnement. L'enjeu peut-être auquel le design s'est attaché historiquement, c'est de faire passer dans la perception, en rythmant peut-être les expériences esthétiques, faire passer dans la perception, c'est-à-dire faire accéder à la modernité, la modernisation. ne pas laisser les poussées techniques se produire sur un mode rampant. Et vous acceptez une fois de plus ce régime métaphorique. Cinquièmement, je pense pouvoir vous dire que nous retrouvons là, dans cette manière de dire, un élément la pensée de la crise que toute référence au design mis à part, une philosophe comme Hannah Arendt a pu produire. Nous retrouvons là un élément de pensée de la crise que j'ai, pour ce qui me concerne, dans certains textes que j'ai pu écrire, relevé sous le syntagme de expérience de la brèche. Expérience de la brèche. Faire l'expérience de la brèche. Hannah Arendt signalait que pour que tout être humain devienne grand, s'épanouisse dans l'humanité, ne demeure pas, ne demeure pas un demeuré, c'est-à-dire un petit qui a toujours besoin de soins, qui n'est pas indépendant, qui est dépendant, etc., qui a besoin de s'occuper de... Enfin, bref, le grandir humain. Le devenir humain ne peut pas ne pas passer par des moments critiques. Et elle nommait ces moments critiques avec ce syntagme-là, enfin, que j'ai relevé tout particulièrement pour ma part, l'expérience de la brèche. Au moment de la crise d'adolescence, c'est un moment de brèche dans lequel ce qu'on a appris de ceux qui nous ont précédés, je dis autrement, un moment dans lequel ceux qui nous ont précédés nous ont appris, doit devenir inopérant, sans quoi on ne peut pas soi-même s'épanouir. Chaque génération a sûrement besoin de faire brèche dans les transmissions qui lui ont été faites et qui doivent lui avoir été faites pour que cette nouvelle génération elle-même se structure, ait des références, soit avertie. Il y a quelque chose de... En fait, c'est pas paradoxal, c'est apparemment paradoxal, hein, qui est donc qu'à un moment donné, la vie humaine, le grandissement, l'épanouissement de la vie humaine, devenir adulte, et si on passe des cas individuels aux générations, toute génération a besoin de faire un monde qu'elle puisse assumer en son nom. Toute génération a besoin, de même que moi, j'ai besoin à un moment donné de pouvoir faire quelque chose non plus sous l'autorité de ceux qui m'ont mis au monde, mes parents, mais de faire quelque chose en mon nom, que je puisse dire ça, c'est moi qui l'ai fait, et pas ceux qui m'ont lancé dans l'existence. Prendre le monde à son compte. Eh bien, la réflexion d'Hannah Arendt conduit à penser qu'on ne peut pas prendre le monde à son compte sans qu'il y ait un moment critique, sans faire brèche dans la tradition, justement pour libérer la possibilité de prendre le monde à son compte ou en son nom. Il y a donc en fait deux grandes possibilités. Ou bien il n'y a rien de nouveau, ou bien on ne fait jamais brèche dans la tradition, ou bien on continue comme avant, ce que, soit dit en passant, la moindre histoire contredit, la moindre histoire individuelle ou la moindre histoire collective contredit. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, aucun d'entre nous ne peut se présenter parmi nous sans être porteur, à un moment donné dans sa propre histoire, d'un moment critique où il a dû faire brèche avec les anciens qui l'ont, avec les premiers venus, ceux d'avant qui l'ont éduqué. Et aucune génération ne peut non plus faire quelque chose au monde en son nom sans justement prendre de la distance, faire brèche avec ce qui l'aura précédé. Donc, ou bien nous nous condamnons à faire un monde où il n'y a rien de nouveau. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pendant que j'y pense, pour dire quand je dis des choses comme ça, quelque part en arrière de mon esprit se profile une forte envie de critiquer des expressions d'allure généreuse, d'apparence généreuse, mais qui sont peut-être beaucoup plus problématiques qu'on peut penser, comme développement durable et principe de précaution. Parce que je ne suis pas sûr que la durée soit, je vais y revenir tout à l'heure en conclusion, soit nécessairement, en tout cas pas de façon évidente ou pas de façon nécessaire, une valeur. Parce qu'en fait, j'insiste sur l'expérience de la brèche. Voilà. Ça veut dire, il y a des choses, c'est pas que ça ne doit pas durer, c'est que ça ne peut pas durer si les nouveaux venus, les nouvelles générations doivent avoir une place en leur nom, en leur compte dans le monde. Donc, ou bien il n'y a rien de nouveau, ou bien il n'y a rien de nouveau, et alors on s'éteint petit à petit dans la tradition, ou bien il y a modification des conditions de vie, ou bien il y a existence, et alors il faut prendre acte de l'historicité, admettre la brèche, les moments critiques, et vivifier le plus qu'on pourra toutes ces données proprement existentielles. Nous existons, nos vies sont des existences, pour autant que nous ne demeurons pas dans le même état ou dans la même situation. Je ne sais pas si je fais entendre quelque chose avec cette expression-là, enfin, en tout cas moi j'aime bien, moi j'y entends quelque chose. Hein. Il ne faut pas seulement vivre, il faut que nos vies soient des existences. J'aimerais bien que ma vie, j'aimerais bien pouvoir dire que ma vie aura été une existence, et pas seulement une vie. Voilà. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Si ma vie a été une existence, ça veut dire que je ne la finirai pas comme je l'ai commencé. Il me sera arrivé quelque chose. Voilà. Évidemment, j'aimerais bien que ce qui me sera arrivé, je puisse l'évoquer avec le sourire sur un mode joyeux. C'est-à-dire que ce soit quelque chose que je pourrais inscrire dans le registre de ce que j'appelais tout à l'heure la vivacité. Bien entendu. Voilà. Mais c'est ça, quand même, que nos vies sont des existences. C'est au minimum prendre acte du fait qu'après tout, il n'est peut-être pas souhaitable qu'elles demeurent toujours dans le même état. Donc je ne fais pas un éloge philosophique de la demeure, de la racine, de l'habitat, en tout cas une façon de concevoir toutes ces notions-là. Nous existons, nos vies sont des existences, pour autant que nous nous émancipons des situations traditionnelles. Hein. Émanciper, je ne sais pas, ce mot est clair, hein, ça veut dire justement, vieux sens du mot, l'émancipation, la manque, ce que vous entendez dans l'émancipation, c'était la situation juridique au Moyen-Âge de ceux qui étaient attachés à demeure à une terre. Hein. Et l'émancipation, le faire sortir, le ex latin, hein, faire sortir de la liaison de l'individu à une terre, c'est-à-dire qu'il puisse bouger, circuler, ne pas être comme enraciné quelque part, à demeure, ne pas être demeuré. L'émancipation. Nos vies sont des existences pour autant que nous sommes en mesure de nous émanciper. Les moments critiques de l'existence sont des moments où une émancipation est pensée. Donc avec ce cinquième point de mon raisonnement, je généralise, si vous voulez, je passe à un stade philosophique, j'ai cité Frank Lloyd Wright, je cite Anna Arendt, et je vous propose de réfléchir en général, je ne me tiens plus dans le contexte apparemment historique qui était le mien en commençant, mais je généralise et je dis que peut-être ce qui caractérise l'être humain au monde, c'est qu'il peut non seulement vivre comme les plantes et les animaux, mais vivre humainement, c'est-à-dire exister, et que la condition de l'existence, c'est précisément l'émancipation à l'égard de ce qui a conditionné la vie. C'est-à-dire, dans le cas des êtres comme nous, c'est l'émancipation à l'égard de ce qui a constitué jusqu'à présent la tradition de la vie. Et les moments critiques sont ceux-là. L'adolescence est un moment critique, un moment de brèche, pour reprendre l'expression de tout à l'heure. Les moments critiques de l'existence, où l'existence ne peut pas ne pas être critique. Hein, elle ne peut pas, justement, elle ne peut pas ne pas connaître des moments critiques. Et ces moments critiques, ces moments où l'existence prend corps dans une certaine mesure, sont des moments où une émancipation est en jeu. Comme on le voit bien au moment de la sortie du cocon familial. Alors, sixièmement, pour peut-être aller vers une espèce de généralisation conceptuelle supérieure, peut-être pour manifester les enjeux, pas des enjeux polémiques, au sens où ce n'est pas de la polémique avec tel ou tel auteur, mais c'est plutôt une façon de mettre de la polémique dans les concepts eux-mêmes. J'ai écrit dans mon texte de présentation, je ne sais pas si vous avez eu, si vous avez pu le lire, à propos de la critique, que ce mot, pour moi, le mot critique, enfin, je vous propose ce soir d'essayer de le penser comme étant le nom d'une relation essentiellement dynamique entre eux. Alors j'ai donné une série de couples de mots, émancipation et défense, vivacité et empêchement, nouveauté et tradition, histoire et durée. Il s'agissait en fait, pour moi, en faisant cette proposition, de dire ce qui peut s'opposer à la valeur critique, à l'idée que la critique vaut, que les moments critiques ont une valeur, et pas sont quelque chose dont il faudrait, a priori, justement, se méfier ou se défendre. On peut penser le moment critique de ce point de vue-là. Hein. Il faut s'en défendre, il faut empêcher les moments critiques de se produire. Ben, j'essaye de vous proposer une réflexion paradoxale à cet égard, hein, de considérer que dans un moment critique, comme celui que nous traversons, je pense, collectivement aujourd'hui, se joue peut-être quelque chose de l'ordre d'une défense, d'un empêchement de la vivacité. Peut-être. Et je ne sais pas s'il faut que je commente davantage ces mots. Il y a un enjeu, je ne sais pas comment le nommer, mais il y a un enjeu sur l'a priori même, la façon dont a priori même on regarde le moment critique. Assurément, nous sommes dans un moment critique dans lequel, je peux revenir au point intérieur de mon raisonnement, des métiers sont en train d'être mis de côté. Des savoir-faire sont en train de devenir traditionnels, c'est-à-dire d'une certaine manière inactuels, impertinents, économiquement par exemple. Et bien sûr, c'est critique. Voilà. Mais en même temps que ce moment est critique au sens banal du mot, il faut peut-être comprendre que rien ne serait pire pour nos existences, rien ne serait pire pour nos capacités d'émancipation que d'être dans une situation de défense ou d'empêchement à l'égard, à l'encontre en l'occurrence, de ce qui est en train de pousser, parce que c'est la vivacité même qui serait défendue ou empêchée dans ce cas-là. C'est l'existence même qui serait défendue ou empêchée. Donc, il y a peut-être à réfléchir justement sur ces couples-là. L'émancipation qu'on peut espérer s'oppose à une certaine défense la tradition qu'on peut, après tout, ne pas sauter. Une certaine vivacité s'oppose à quelque chose qui est de l'ordre de l'empêchement, de la paralysie aussi, hein, de l'incapacité d'ailleurs à décider et à être décisif. Le couple également nouveauté et tradition. C'est pas sûr que tout ce qui est important pour nous, en tant que nous sommes des êtres existants, se situe ou doivent se situer du côté de la tradition. Ou, je vais dire les choses autrement, on peut peut-être s'autoriser à contester la tradition, le traditionnel, pour autant que la tradition ou le traditionnel sont eux-mêmes dans la défense et dans l'empêchement. Parce qu'il y a quand même une valeur de la tradition ou du traditionnel qui pourrait, par exemple, si on pense aux situations d'éducation, celle de produire à l'encontre des plus jeunes, des nouveaux venus, des terminés, de ce qu'on pourrait appeler des avertissements. La tradition peut nous avertir. L'histoire, ce qui s'est passé, peut nous avertir. Si des erreurs ont été faites, on ne peut peut-être éviter de les refaire que parce que la tradition de l'erreur ne nous est pas inconnue. nous sommes avertis. L'histoire, en tant qu'elle est la mémoire de ce qui s'est passé, peut nous avertir d'un certain nombre de choses, comme nos parents peuvent nous avertir ou avertir leurs enfants d'un certain nombre de choses. Et donc, je ne fais pas caricatural, mais je ne fais pas critique absolue de tout ce qui est tradition. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai parlé du rythme de la forme dans le cadre de la modernité, j'ai dit qu'il faut marquer peut-être, en tout cas que la modernité s'attache à ça sur le plan l'histoire de la peinture, par exemple l'histoire des arts, à marquer la différence entre l'autrefois et aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire annuler l'autrefois, marquer la différence. Donc il y a certainement dans la tradition, dans le traditionnel, donc déjà là, quelque chose qui vaut, qui peut encore valoir en tant que ça avertit, par exemple. Mais ce que je veux essayer de souligner, c'est l'idée que la tradition devient problématique en tant précisément qu'elle se produit dans le registre de la défense et de l'empêchement. Si à partir d'une tradition, il est défendu de faire du nouveau ou il est empêché d'être vif, alors il y a un problème. Alors il y a un problème puisque, d'une certaine manière, ce qui... il y a au bout de ça, c'est l'étouffement dans la valeur de la tradition. Pour ma part, m'intéresse, comme vous le savez peut-être, sous le nom de modernité, les opérations d'écart manifeste, les situations de différence. Donc Jacques Derrida, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, écrivait le mot différence avec un A, pour montrer qu'il faut que ça puisse... entrer dans le registre du différent, de ce qui est en train de s'écarter, et de s'écarter manifestement. Alors je pourrais prendre beaucoup d'exemples pour dire, en fait, ce qui nous manque peut-être beaucoup dans le monde d'aujourd'hui, par exemple, pour être au clair avec un certain nombre de technologies, c'est justement que dans le registre du sensible, ce en quoi elle diffère des techniques d'avant, ne soit pas suffisamment mis en évidence. Alors je conclurai en disant un petit mot sur la durée, c'est le septième point de mon raisonnement. Je vous l'ai dit en passant rapidement, dans le contexte de réflexion qui est le mien d'une manière générale et particulièrement le mien ici ce soir, il ne me semble pas possible d'autoriser a priori la durée comme valeur. Je ne dis pas que je n'autorise pas du tout, mais il faut être pareil, c'est lancé comme pour une autre tradition, mais ça n'est pas a priori une valeur. L'espèce d'éloge de la possible de la critique, pas un éloge systématique, un éloge possible de la critique que j'espère avoir fait un peu avec vous ce soir, nous conduit à penser qu'on ne peut pas non plus, à rebours, faire de la durée a priori une valeur. Elle peut l'être dans certains cas, elle ne l'est pas de façon systématique et de façon nécessaire. Durée peut être le mot clé, si j'ose dire, d'une culture ou d'une tradition qui se défende, et non pas d'une tradition et d'une culture qui avertissent et donnent des repères. Pour ma part, pour que peut-être dans la discussion vous puissiez situer ma position, je ne suis ni dans l'innovation systématique, ni dans le fait de mettre du nouveau de façon systématique dans ce qui ne l'est pas et qui en fait se conserve subrepticement. Ça, c'était la situation justement que dénonçait Sullivan. La banque à façade du temps, c'est une innovation, comme on dit aujourd'hui, en nous demandant d'en faire systématiquement. Littéralement, innovation, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le nouveau, l'innovation, soit in, dans, et pas, je ne sais pas comment dire ça, et pas dans l'évidence, et pas dans... Ça correspond, j'ai cherché, au statut juridique de l'innovation, que... L'innovation ne porte pas sur le résultat, mais sur le mode. C'est-à-dire que voilà où je me situe, si vous voulez, en reformulant les choses. ni dans l'innovation, c'est-à-dire ni dans la modernisation rampante, hein, qui modifie le cœur des choses, mais pas l'apparaître des choses. Donc ni dans l'innovation, ni dans la modernisation rampante, ou subreptice, ou en douce, etc., ni, inversement, dans le développement durable. Dans le développement durable, quelque chose me gêne, qui serait justement, qui est d'abord un développement, après tout on peut discuter quel développement, si jamais ce développement n'est pas juste. Alors le développement durable, c'est le développement durable de la justice, il y a quand même un problème, la durée n'est pas une valeur en soi. Étant donné qu'il y a parmi nous des puissances d'invention qui sont aussi des puissances d'inquiétude, inquiétude, inquietus en latin, pas tranquille, ça ne nous laisse pas tranquille, ça ne nous laisse pas stable, ça déstabilise, c'est critique au sens banal du mot. Étant donné qu'il y a parmi nous des puissances d'invention, nous sommes des animaux techniciens, inventifs, etc. Étant donné qu'il y a par conséquent parmi nous des puissances d'inquiétude, il ne s'agit pas de nous défendre à l'égard de ces inquiétudes, il ne s'agit pas de faire poursuivre des états de monde comme s'ils ne devaient jamais se trouver modifiés, il s'agit de découvrir, de mettre en œuvre, de réaliser, de qualifier ces puissances d'invention et ces puissances d'inquiétude formellement. Je répète, si vous voulez, c'est ça pour moi l'enjeu. L'enjeu de toute crise est peut-être là. Alors je sais que vous me direz, en fait, les crises, c'est là, qu'est-ce que vous faites de la crise économique, etc. Mais je pense que c'est quand même dans le raisonnement, mais l'enjeu est là. L'enjeu, c'est de découvrir, c'est-à-dire de mettre en œuvre, de découvrir, au sens, je reviens à l'exemple principe de Sullivan, hein. Il s'agit que la banque se découvre, elle est couverte par la façade, le temple, etc. Il s'agit qu'elle se découvre, c'est-à-dire qu'elle vienne avec fierté, puisque notre monde a besoin des banques, qu'elle se montre avec fierté, disait en substance de Sullivan. Mais il ne faut pas qu'elle soit honteuse de leurs propres opérations. Hein. L'enjeu est peut-être là. Ce que nous appelons couramment une crise, c'est lorsque un moment critique est honteux de sa propre puissance critique, dans une certaine mesure. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et l'enjeu est de découvrir ce qui mijote au sein de l'inventivité humaine, de la mettre en œuvre, en quelque chose manifeste, de réaliser, comme on dit en français, tu te rends compte, tu réalises. Voilà. Il s'agit que ça se réalise, il s'agit que ça soit qualifié vivement, fièrement, joyeusement. Hein. Pour ça, peut-être qu'il faut modifier, la cadence de l'inventivité elle-même. Ça, c'est bien possible, hein, donner du rythme, etc. Il s'agit de découvrir les puissances d'invention qui, de toute façon, nous travaillent. Il s'agit de les découvrir formellement et ne pas les laisser dans le registre du subreptice, du ce qui se fait en douce, etc. Il s'agit de ne pas laisser les puissances d'invention dans l'informe où, au fond, elles sont capables de demeurer sourdement, de nous faire sourdre, je ne sais pas si vous entendez ce verbe, de nous faire sourdre, sourdement, un monde. Il s'agit justement que les puissances potentiellement émancipatrices, là-dedans, si j'ose dire, ne restent pas sourdes. Et qu'elle se réalise et qu'elle se manifeste. Voilà, c'est un éloge très abstrait, j'espère pas trop, de la crise. C'était au fond pour que nous puissions aborder ce genre de mots avec, en ayant le moral, comme on dit couramment.
nous avons effectivement, je vais peut-être revenir un petit peu à la raison de l'invitation que je vous ai fait en tout cas, et à la relation de ces citoyens en France. Je trouve que c'est la carte déjà quelques questions prêtes tout de suite.
Tu viens de passer dans ce moment d'engagement et de tentative de découverte de ce qui est déjà présent, ou potentiellement présent, c'est la notion d'utopie. Comme outil pour permettre la mise en visibilité de cette réalité.
Tu veux que je parle de l'utopie ?
Voilà. Est-ce que cette partie-là te paraît être un outil nécessaire à cette mise en forme ? Ou est-ce que c'est, d'après toi,
la réponse spontanée qui me. Non, immédiate, qui me vient immédiatement à l'esprit en entendant me poser cette question, c'est de dire. Là, tu te places sur le champ de compétences qui est le tien, c'est-à-dire de quoi quelqu'un qui inscrit son travail au nom du design, mais c'est pas mon cas. Hein. Moi, j'inscris mon travail plutôt au nom de la philosophie, de la réflexion, du fait de faire des phrases sur tout ça. De quoi quelqu'un qui va le faire, ce que je dis qui serait mieux pour nous. Moi, je dis que ça serait mieux pour nous. Je dis Franck Lebrun, je dis que ça serait mieux pour nous si on pouvait. Faire exister tout ça formellement. Et évidemment, la question de comment on peut opérer ce travail-là. Alors, il se peut, à ce moment-là, voilà, ça serait ma réponse immédiate, c'est de dire, mais peut-être que pour effectivement réaliser le travail qu'il faut faire, parce que c'est un travail, ça ne va pas de soi, j'espère que j'ai réussi à le faire entendre, et ça peut très bien ne pas se produire. Hein. Donc, nous pouvons rester sourdement modernes, et dans ce cas-là, pas très vifs, etc. Donc il y a un travail, et peut-être que pour effectuer ce travail, le recours à quelque chose comme une figuration utopique serait nécessaire. D'une certaine manière, je dirais, là au fond, je n'en sais rien, moi, pratiquement. Après, je me dis quand même, sûrement tu attends une réponse un peu. Un peu, hein, ça. Je suis quand même sur l'idée que utopie, littéralement, veut dire qu'il n'a pas de lieu. Qu'il n'a pas lieu. L'idée pour moi...
Tu peux utiliser le mot projetation aussi. Hein.
Ouais.
Est-ce que ce moment de découverte, je reviens à la manière dont tu... des capotes est possible sur le aujourd'hui, ou est-ce qu'on a besoin de cette projetation en avant, sachant que obligatoirement, et là je rabaisse énormément, la commande viendra donc l'industrie qui passe la commande au design, à cette mise en visibilité s'exprime quand même lentement et souvent il faut mettre en crise, là aussi, pour passer un cas.
Non, mais dans ce cas-là, je pense que la réponse sur la méthode que je te faisais auparavant est peut-être la réponse suffisante. Si tu ne tiens pas au mot utopie, c'est-à-dire si c'est un mot pour dire, on peut dire aussi projet ou prototype ou quelque chose comme ça, j'ai relu avant de faire cette conférence aussi un certain nombre de textes de Gropius. Qui sont un peu après celui de Franck Lebrun, je pense que celui-là, ce passage-là a été écrit relativement tôt, enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Donc il parle bien de la présentation, enfin, il parle bien de situations qui seraient intermédiaires, dans lesquelles ce qui est fait au nom du design est présenté à l'industrie sous le nom, par exemple, de prototype. Et le mot apparaît dans ces textes.
En vous écoutant, on était assez contents parce que vous confirmiez un peu ce qu'on pense. Et Bah, par exemple, quand vous disiez que les banques se cachent derrière ces formes de temples et qu'elles devraient se découvrir et qu'elles devraient être plutôt fières de se montrer parce qu'elles sont utiles à la société. Et parfois, c'est ce qu'on ressent un peu dans le design graphique. C'est, parfois, les gens se complaisent dans des formes qui existent déjà, ça a l'air confort. Et quand on veut un peu s'émanciper de ces formes-là, on a du mal à faire accepter des nouvelles imageries ou des nouvelles esthétiques parce que ils ont pas, les commanditaires ne peuvent pas se repérer par avoir des choses qui existent déjà vu que c'est nous les initiateurs de ces formes-là. Et comment on pourrait faire accepter des nouvelles formes à des clients?
Alors, comment faire accepter de nouvelles formes à des clients? C'est pas mon champ de compétence a priori, si vous voulez. Mais ce que vous dites m'amène peut-être à faire une précision. Je n'ai pas pensé à le dire et j'aurais dû. Je ne fais pas l'éloge du changement de forme pour le changement de forme. Il faut que ça soit clair dans mon discours. La mise au monde de forme nouvelle, disons, est fondée pour autant qu'il y a au cœur quelque chose qui est l'ordre d'une inventivité, d'une modification des capacités techniques, etc. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, les gens comprennent le champ sur lequel vous attirez mon attention, donc vous avez dit le design graphique, mettons à lettrage, on peut imaginer certainement d'inventer des formes pour elles-mêmes, voilà, sans qu'elles soient fondées. Autre chose est le fait que les modifications dans les situations techniques demandent dans une certaine mesure qu'il y ait du travail formel. Autrement dit, la recherche formelle n'est pas pour moi une obligation systématique. Elle a des conditions émergentes. Alors ça ne répond pas à votre question, mais ça la situe, si vous voulez.
C'est quand vous avez dû marquer la différence sans. C'est pas annuler la différence.
Ah oui.
Quand vous avez dit que vous avez remarqué la différence, c'est pas annuler la différence. C'est-à-dire pas faire des nouvelles formes pour en faire.
J'avais lu un article qui m'a très très intéressé. La première fois que je l'avais lu, je crois que c'était dans un numéro de la revue Azimut, Lequel au juste. Je pense que c'était avant les numéros 30, mais Lequel au juste, je ne me souviens pas. Qui m'avait fort intéressé sur justement l'arrivée de ces petits écrans. Je ne sais pas quel est l'appareil que j'ai là, je ne peux pas y toucher. Si c'est enregistré, ça va faire du bruit. Mais, et que donc cet objet technique aura imposé finalement des recherches, je crois savoir ça. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Enfin, je parle sous couvert de gens beaucoup plus autorisés que moi. Mais des recherches graphiques permettant de lire de très petits caractères en dessous des seuils qui étaient réputés être les seuils de lisibilité, que c'était nécessaire pour... Là, vous avez un exemple pour moi de recherche formelle fine qui va avec une poussée technique.
Justement, est-ce que dans cette poussée technique, n'existe pas un troisième ingrédient qui finalement peut-être suscite l'effective transformation et mise en visibilité qui est la société? C'est-à-dire, est-ce que le passage, l'objet nécessite nouvelles formes et nouvelles... est le seul passage possible, ou est-ce que c'est pas un passage beaucoup plus indirect? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on voit bien qu'il y aurait des choses à découvrir ou à projeter. Il y a des empêchements qu'on sent bien et qui sont des empêchements où la technique n'est pas encore parvenue à faire le forcing sociétal, alors qu'en principe, au niveau du design, on serait prêt.
Ben, pourquoi pas.
Pense aux nations. Hein.
Ah, tu penses à ça.
Des choses, des frontières qui existent encore, des choses où on sent très bien que notre monde aurait, n'aurait plus besoin de ces choses-là.
Donc il y a un obstacle du côté du social.
Exactement.
Ah oui. Ouais.
Et c'est pas uniquement le lien direct technique, formalisation de cette technique qui transformera le social. Donc, il y a une sorte de triangle.
Moi, j'ai quand même tendance plutôt à penser, mais cela dit, tous les problèmes doivent s'examiner, je pense, dans un esprit de recherche. C'est-à-dire qu'il faut faire des hypothèses et des contre-hypothèses, sinon on devient soi-même systématique. Mais je suis plutôt parvenu à penser que, moi je dis ça de cette manière, que la technique, les poussées techniques, enfin la technique d'une manière générale, a une dimension que je qualifie de morale. Alors, c'est pas pour dire faire la morale. J'entends dans le mot moral, c'est la même étymologie, mœurs. Hein, ça nous fait des mœurs d'un certain genre. Bon. Alors, prenons ce qui a été une poussée technique, une invention comme le téléphone. Ça a une dimension morale au sens que je viens de dire, dans la mesure où, par exemple, ça redéfinit, ça géographise. Si j'ose ce verbe que j'invente d'une toute autre manière que la manière traditionnelle, ce que c'est que. Où sont nos proches ? Voilà. Depuis que le téléphone existe, depuis que le téléphone est parmi nous, nos proches ne sont pas nécessairement à côté de nous dans la demeure pour être des proches, puisqu'on peut se téléphoner, ils peuvent être loin. Donc, ça redéfinit la notion de proximité, ça redéfinit aussi complètement l'expérience de la solitude. Pas la même chose, le pouvoir être seul, nous ne le supportons pas de la même manière depuis qu'il y a le téléphone et avant. Non. Donc il y a une dimension morale des objets techniques, et je pense que la difficulté c'est de faire passer le fait que ces mœurs, nos mœurs sont modifiées dans leur cause réelle. Il y a quelque chose qui manque à la manifestation dans la situation de la technique et qui, à mon avis, en dernière analyse, explique que des structures surannées, comme pourquoi pas l'État-nation, si c'est à ça que tu penses, je sais que tu penses à ça, qui peuvent expliquer qu'éventuellement une structure surannée, à penser à l'État-nation, demeure lui-même. C'est soutenu par un défaut quelque part dans les représentations techniques. La plupart des utilisateurs efficaces d'ordinateurs aujourd'hui ne savent absolument pas par où transite leur message, où sont stockés, où est stocké leur courrier physiquement, etc. Il y a quelque chose qui manque à la manifestation de la technique là et qui finalement, à mon avis, explique la résistance de structures historiques qui sont peut-être plus pertinentes.
C'est peut-être une obsession, mais si on pense juste au temple et aux banques, alors pourquoi les banques ressemblent à des temples ?
Pourquoi elles ressemblent à des banques ?
Non, pourquoi les banques ressemblent à des temples, vous pensez ?
Ah bah, alors d'abord, il y a une réponse empirique dans le texte de Sullivan, là je me protège, il le dit comme ça, et il constate qu'à Chicago, les banquiers... demande aux architectes de façader leur banque comme si c'était des temples, et ça lui paraît aberrant. Donc cet exemple, si vous voulez, j'en hérite. Quoi. Je ne vais pas fabriquer. Alors, pourquoi les banquiers faisaient ça Moi, j'ai envie de vous répondre. Je pense que c'est dans l'esprit du texte, par manque de fierté à l'égard de leurs propres opérations. Parce que, quelque part, il ne les assume pas. Il me semble que c'est quelque chose comme ça que dit Sullivan. Alors, peut-être que pour les assumer fièrement, ces opérations, il faudrait qu'eux-mêmes repensent la nature de ces opérations elles-mêmes, qu'ils assument, qu'ils découvrent, il s'avère mentalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Quoi au juste? Donc M. Liman était assez concret parce qu'il parlait de l'organisation du travail, c'est-à-dire quel est l'espace réservé, où travaillent les responsables de service, les secrétaires, etc. C'est pas déjà le bureau en open, comment est-ce qu'on dit, hein? Open space, merci. Je confondais avec open source à l'instant, mais je pense que. Donc, en open space, enfin, c'était pas déjà tout à fait ça, mais enfin, c'est des questions comme ça qui se posaient. C'est-à-dire, finalement, l'architecture qui proposera à la banque, à l'opération bancaire une certaine fierté, aura aussi comme conséquence de conduire à repenser l'organisation de la banque.
Très beau thème à travailler, la manière dont la banque se représente et continue à se représenter. Tu vas à Zurich au Paradeplatz et tu regardes à quoi ça ressemble. Ça ressemble à rien. Ça reste de la non-représentation. Une banque reste non-représentative. Ça reste de. Ça n'a pas sa propre sémantique, ça n'a pas sa propre forme d'une certaine manière, mais c'est pas pour rien, je pense.
Et on peut aussi montrer, je crois, qu'il y a un rapport entre l'organisation de ces espaces et les organigrammes. Et les organigrammes eux-mêmes, moi j'ai cherché, je ne connais pas, à part l'organigramme de Gropius au Bauhaus, qui est un organigramme circulaire, une étrangeté graphique incroyable. Tous les organigrammes auxquels j'ai pu accéder sont des organigrammes dans lesquels on lit une hiérarchie qui en fait n'est pas véritablement pensée et qui se retrouve dans l'architecture très concrètement. Et donc c'est ça qui travaillait en passant à prendre forme de l'opération bancaire. En fait, donc là, de ce point de vue, mon exposé ce soir est insuffisant, mais on ne peut pas tout faire. Le passage à la forme n'est pas sans effet sur l'organisation elle-même, sur le caractère organique lui-même. C'est pas détaché, justement. C'est-à-dire à partir du moment où l'organisation, ce qui se sécrète au sein de l'inventivité humaine, d'une certaine manière, se montre, il se montre à soi-même et cherche à se supporter soi-même. Pour ça, éventuellement, il faut qu'il s'arrange un peu.
Je voudrais revenir sur la notion de durée et de durable que vous évoquiez à la fin de votre propos. Et en vous écoutant parler, j'ai pensé à l'exemple du cinéma, par exemple, où la durée d'un plan est un élément structurant. C'est un élément qui participe du rythme, qui participe de la forme, qui participe de l'expérience sensible, esthétique, etc. Est-ce que vous pourriez nuancer ou préciser,
oui,
plutôt, s'il vous
faut. En fait, ce qui est difficile, évidemment, c'est quand il faut, c'est un problème de méthode, passer de l'usage des mots au niveau des concepts. C'est-à-dire, si vous dites, par exemple, là, tout de suite, la durée d'un plan, vous utilisez un mot, selon la façon dont je l'entends, qui est évidemment pertinent, je conteste pas ça, mais c'est pas la notion que j'ai, c'est le même mot, mais c'est pas la notion que j'ai pour ma part utilisée dans l'esprit. C'est-à-dire, si je vous dis par exemple que ce que vous voulez appeler durée, la durée d'un plan, je dis que c'est une certaine étendue de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ça dure, comme on dit, évidemment, on peut pas le dire autrement en français, un certain temps. Mais c'est pas le même ordre de durée que ce que j'ai évoqué. Exposé, et même peut-être pour répondre plus simplement, ça n'est pas la même échelle. De toute façon, le plan qui dure au cinéma, le plan qui dure au cinéma, le plan qui dure dans un film, il ne peut pas durer extrêmement longtemps. Le principe d'un film, c'est la coupure. En fait, quand le plan, comme on dit, dure, ce que ça travaille, c'est la coupure. Depuis quand ça a été coupé et quand est-ce que ça va l'être, on ne peut pas, je ne pense pas qu'on puisse penser, même si on dit couramment cette expression, la durée d'un plan, moi-même je m'entends employer à l'occasion, sans penser ce qui va borner cette durée, c'est-à-dire les coupures en amont et en aval, il me semble. Alors que dans le développement durable, ou dans le durable qui s'entend dans le développement durable, qui est d'ailleurs une incroyable traduction française, parce que Sustinego dit autre chose dans la version de référence, le durable, c'est quelque chose qui essaye de s'envisager sans coupure en aval. C'est-à-dire une durée qui serait, d'une certaine manière, sans terme. C'est le même mot, mais ce n'est pas le même registre. Le développement durable, moi je vois ça comme une espèce de boule de neige qui grossit interminablement et qui fait, pas avalanche, mais quelque chose qui serait voué à ne jamais, s'arrêter, c'est-à-dire qui n'admet pas sa coupure. Et là, je crois qu'il y a quelque chose à interroger quand même sur l'idée d'un développement qui n'admet pas sa coupure. Alors, couper le développement, ça ne veut pas dire que cesser de se développer, ça peut être de réorienter, de passer à une autre direction, passer à une autre voie, etc. Mais quelque chose qui soit de l'ordre de l'interdiction de la coupure me semble très important. Et au cinéma, il y a incontestablement de la coupure.
Je vais juste revenir sur votre conclusion. Au moment où vous dites. Chaque nouvelle forme correspond à ces techniques. Et qu'on pense qu'à
que chaque
nouvelle forme correspond à ces techniques. Et on me porte un peu plutôt à penser aux énergies et à la notion d'innovation dans ce champ-là. Comment vous pouvez situer la notion d'innovation dans une histoire évolutive des formes?
Sur l'innovation, si j'ai bien entendu votre question, je ne suis pas sûr. Rien n'empêche, j'ai un peu cherché sur l'histoire du mot depuis les encyclopédies, depuis le XVIIIe siècle. Quand Jaucourt, qui est l'auteur de l'article Innovation dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a une entrée d'innovation, c'est un petit texte, il me semble bien, je cite ça de mémoire, mais je suis sûr qu'il utilise le mot difformité. C'est-à-dire que l'innovation est pensée à ce moment-là comme une difformité. Je trouve ça intéressant. Est-ce que aujourd'hui, quand nous utilisons ce mot avec la vogue qui l'a, nous avons peu ou prou en tête le fait que ça a été associé pendant longtemps à quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la forme, mais quelque chose de la difformité. Moi, je fais un travail intellectuel abstrait, comme vous pouvez le constater, enfin, même si j'espère qu'il y a des enjeux qui ne le sont pas. Enfin, ma façon de travailler consiste à passer par l'air du temps, les mots, les concepts, etc. Moi, je ne suis pas sûr que. Pourquoi on ne dit pas invention? Pourquoi aujourd'hui, l'injonction qui nous est adressée, c'est une injonction, si vous n'êtes pas, si vous n'écrivez pas comme vous essayez de créer un diplôme à l'université ou dans les écoles de l'innovation, vous n'avez plus de chance. C'est une injonction, ce n'est pas une liberté. Et qu'est-ce que dit cette injonction au juste? Pourquoi on dit ce mot-là, par exemple, plutôt que invention? Vous pouvez nous dire soyez inventif. Non, non, on nous dit soyez innovant. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue là? Moi, je pense que ce mot innovation a quand même gardé. Même si on ne s'en souvient pas, même si on ne l'entend pas, la trace de ce à quoi il a été associé autrefois, donc à une certaine, hélas, qualité de difformité, comme disait l'article de Jaucourt. C'est-à-dire que l'innovation consiste, donc, exemple qui est pris par les juristes, c'est par exemple le résultat de l'opération, si vous voulez gonfler 20 minutes. L'innovation ne va pas toucher au résultat, elle va mettre du nouveau dans la manière d'y parvenir. Donc on ne touche pas à ce qui se produit à la fin, mais à ce qui se produit, et par conséquent, c'est l'autorisation systématique, c'est l'injonction systématique sous le nom d'innovation à la sécrétion de nouveauté. Je prends le mot sécrétion au sérieux. Moi, dans mon travail, j'ai essayé de montrer qu'il pouvait s'associer historiquement à des vieilles ententes du mot industrie, la sécrétion. La sécrétion, j'ai le droit de faire ce jeu de mots en français, le secret, l'être au secret et la sécrétion. Et produire depuis un secret dans le secret, qui va avec la logique des brevets et toutes ces choses-là. C'est ça l'injonction de l'innovation, c'est l'injonction à la sécrétion du nouveau. Et la sécrétion du nouveau, ce n'est pas la formation du nouveau conceptuellement. Une nouveauté qui prend forme parmi nous avec vivacité, fierté, enfin, toutes ces valeurs que j'ai essayé de. Je ne pense pas qu'elle puisse se penser rigoureusement dans le seul registre d'une innovation qui consiste à mettre du nouveau in, à l'intérieur, pas dans la perception et l'apostrophe. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dans le même registre. Et même si je vais au bout de mon raisonnement, donc ça c'est un raisonnement, vous êtes évidemment mieux placé que moi pour savoir si c'est pertinent pratiquement, c'est que, enfin en tout cas philosophiquement, je soutiendrai que le design n'est pas du côté de l'innovation. Parce que sa tâche historique, ce n'est pas de secréter de l'invention, ce n'est pas d'aider le monde industriel à avancer en douce, c'est de donner forme à ce monde. Mais c'est autre chose.
C'est là que la crise.
Et c'est là, qu'il y a crise, dans une certaine mesure. Mais c'est en même temps là que la crise. Évidemment, c'est pas facile à vivre, la crise d'adolescence n'est pas facile à vivre, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est là que quelque chose d'essentiel se joue et se libère éventuellement.
Merci. Il y a d'autres questions ? Bien, on va remercier.